Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je tiens en premier lieu à dédier cette émission à Dame Gilda, qui nous a quittés trop tôt, paix à toi. Pour cette septième émission, pour sa première émission ce soir, pardon, et je l'en remercie, LB à la technique, Nicolas à l'animation. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve en direct sur Radio Alpa 107.3 FM pour cette septième émission du débat. Ce soir, nous débattrons du sujet suivant. Français des quartiers populaires, français ruraux, sont-ils les grands oubliés du quinquennat Macron? Pour évoquer cette question avec moi, laissez-moi vous présenter nos invités. Dominique Amiard, maire de Cure et vice-président Sarthe de l'Association des maires de France. Bonsoir monsieur Amiard.
Bonsoir.
Monsieur Gilles Leproust, maire d'Allonne, conseiller départemental de Sarthe et vice-président de l'Association des maires de France au niveau national. Bonsoir monsieur Leproust.
Bonjour.
Ce soir, comme vous, peut-être, j'ai le débat triste. Oui, triste, à en vomir, à en être malade. La guerre est en Europe. 77 ans après les derniers coups de canon nazis, la vie continue. Mais n'oubliez pas, chers compatriotes, que la guerre est à 2500 km de notre pays. 2 heures d'avion. Et qu'une guerre à nos portes peut vite devenir une guerre sur le continent. Je terminerai pour apporter tout mon soutien au peuple ukrainien et rappelez-vous cette locution que je ne cesse de méditer depuis des années. Civis pacem para bellum. Cet aparté exprimé, revenons au sujet qui nous occupera avec nos invités ce soir, le bilan du quinquennat Macron en matière de ruralité et de quartiers populaires. On oppose souvent dans nos belles métropoles toutes propres et bêtement ces aires géographiques, leurs habitants et leur façon de vivre. C'est pourquoi j'ai décidé, et je les en remercie, d'inviter un maire d'une commune rurale, monsieur Amiard, et d'inviter un maire d'une ville avec de nombreux quartiers populaires, monsieur Leproust à Allonne, afin que vous compreniez, je l'espère, comprendre que ces aires comportent de nombreuses difficultés communes. Aménagement du territoire, mobilité, accès aux services publics, accès à l'emploi, accès à la culture, et tant d'autres sujets que nous évoquerons ce soir avec mes invités. Premier sujet, la ruralité. Quel bilan pour le quinquennat Macron? Monsieur Amiard.
Écoutez, je pense que c'est un bilan qui correspond pas tout à fait à l'intitulé de l'émission, puisque vous avez mentionné les oubliés du quinquennat Macron. Non, je pense qu'il faut être plus mesuré dans l'appréciation. Tout simplement, déjà, peut-être rappeler qu'il y a quand même plusieurs ruralités. C'est-à-dire que vous avez des ruralités qui se portent très très bien aujourd'hui dans notre pays, en particulier celles qui sont autour des grandes métropoles, qui ont bénéficié donc d'un développement démographique, mais aussi en partie économique, et donc avec des classes sociales qui n'ont pas de difficultés particulières. Et puis vous avez des ruralités qui sont enclavées, qui sont des ruralités éloignées des grands pôles, qui perdent des habitants, qui ont perdu beaucoup d'emplois industriels au cours des dernières décennies, hein, et c'est bien avant finalement la mandature d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on veut bien annoncer. On sait d'emblée, à savoir que la ruralité a des formes très très diverses et donc forcément les politiques qu'on y conduit doivent être déclinées en fonction des besoins de chacun de ces territoires.
Et je continue avec vous, monsieur Amiard. À Cure, vous, la ruralité, comment ça se passe? Vous avez profité du développement de certaines métropoles comme Le Mans, ou finalement vous avez, comme vous le citiez peut-être, trop enclavé, perte d'emploi industriel? C'est le cas à Cure?
Alors, en fait, on a vu une évolution au cours des 15-20 dernières années. Enfin, je rappelle que je suis quand même maire depuis 27 ans. Donc, j'ai finalement ce regard un petit peu, donc, cette profondeur de regard. Aussi longtemps que Le Mans, communauté urbaine, etc., a été motrice dans le département, créant des emplois, se développant, etc. Il y a eu un effet d'entraînement, d'abord sur la deuxième couronne, la première c'était bien avant, et puis même au-delà, la troisième couronne, ont bénéficié d'arrivées, d'installations, d'habitants. Et sur la dernière décennie, on va dire après la crise économique de 2007-2008, donc à partir de 2010-2011, là on a vu, mais c'est pas spécifique à Cure, hein, on l'a vu dans le reste du département, un certain nombre de communes qui se sont trouvées finalement en situation de difficulté. Alors, depuis la crise, Covid, l'intérêt de la campagne repart. Aujourd'hui, les Français ont envie de retrouver de l'espace, du grand air, de la quiétude, etc. Mais j'imagine qu'on reparlera de tout ça.
On y reviendra justement, parce que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder, justement, les gens qui sont partis en campagne. Est-ce que c'est contraint ou est-ce que c'était voulu? Monsieur Le Proust, une réaction au propos de Monsieur Amiens, peut-être, en introduction, ou peut-être un sujet que vous voulez aborder?
Alors, peut-être, parce que pour que vos auditeurs ils soient pas surpris.
Et auditrices,
vous avez raison. Avec Dominique, on se tutoie, parce qu'on est tous les deux membres vice-président de l'association des maires de la Sarthe, donc avec Dominique, on va se tutoyer.
On est d'accord. Les émissions où les gens se connaissent et se vous voient, je trouve ça tellement ironique. Donc allez-y, messieurs, tutoiement de rigueur ce soir.
Bien évidemment. Voilà.
Alors après, première chose sur ce débat qui me semble intéressant, il n'y a pas à opposer le secteur rural et le secteur urbain. Je pense vraiment que ce qui doit, lorsque nous sommes élus, nous intéresser, c'est comment, quels que soient les endroits où habitent les habitants, on leur apporte les services qui leur permettent de vivre en société. Et à commencer par le service public. Et sans ramener uniquement, effectivement, au bilan d'Emmanuel Macron et de sa majorité présidentielle, parce que ça a commencé bien avant, on peut quand même s'apercevoir que nous assistons depuis au moins 2 décennies à un déménagement du territoire, et notamment sur la présence des services publics en milieu rural et en milieu urbain, mais surtout en milieu rural. Moi, j'étais souvent amené à côté de maires à mobiliser, par exemple, comme élu, pour s'élever contre la fermeture des bureaux de poste, par exemple. Parce que un bureau de poste qui disparaît, une classe qui disparaît, un hôpital de proximité qui disparaît, une perception qui disparaît, c'est autant de vie dans les territoires, et notamment les territoires ruraux qui existent. Et je pense que avec le président Macron et sa majorité, il y a un rendez-vous manqué. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des politiques sectorielles, on y reviendra ce soir dans ce débat. C'est vrai pour les quartiers populaires. Mais globalement aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs avec la crise des gilets jaunes, effectivement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vu leur vie se dégrader, alors beaucoup liées au pouvoir d'achat, une question de mobilité, et qui a appauvri fortement. Donc je pense qu'effectivement, y compris puisque nous sommes maintenant à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, je pense que cette question doit être au cœur des débats. Malheureusement, elle n'y est pas assez aujourd'hui. Alors, on me dirait, le président actuel n'est pas encore candidat, donc c'est vrai que ça aide pas quand même au débat démocratique. C'est quand même...
Alors, il a quand même annoncé un premier meeting à Marseille le 4 mars.
Il a rien annoncé. J'ai cru que c'était la presse qui avait un peu annoncé. Voilà. Mais ceci dit, voilà. Donc, je souhaite vraiment que dans les 2 mois qui nous restent, il y ait un débat entre les différents candidats pour relever ces défis de l'égalité de traitement, quel que soit l'endroit où nous vivons, que nous soyons dans un secteur rural ou un secteur urbain.
Monsieur Amiens, en réaction en fait au propos de Monsieur Le Proust, justement sur le service public et la ruralité, est-ce que vous, en tant que maire de ruralité, vous appréciez le constat positivement, ou est-ce qu'il y a des mesures positives qui ont été faites, notamment sur le service public dans la ruralité par le président Macron?
Alors au moins sur ce sur quoi je suis d'accord, c'est qu'on ne peut pas opposer finalement le monde des villes avec le monde des campagnes. On voit bien qu'aujourd'hui on est dans un système global et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand l'agglomération Mancelle va bien économiquement, elle est la locomotive qui tire une grande partie du département. Donc on est finalement extrêmement lié, et aujourd'hui dans le cadre finalement des problématiques environnementales, etc. Le monde des villes a besoin aussi des campagnes sur le volet alimentaire, sur le volet énergétique, etc. Donc on est, je dirais, de plus en plus liés. Par contre, là où finalement je partage pas le constat de Gilles, qui est celui d'un rendez-vous manqué, c'est tout simplement parce que finalement, quand on regarde la façon dont les choses se sont passées, c'est quand même sous cette mandature qu'on a un secrétaire d'État spécialement dédié à la ruralité. On a quand même eu aussi donc un agenda rural avec 181 mesures qui ont été adoptées et qui ensuite donc sont véritablement la feuille de route de la politique qui a été conduite en faveur du monde rural, avec une diversité de mesures. Et puis on y reviendra aussi, il y a eu des investissements massifs en faveur pas simplement du monde rural, mais le plan France Relance profite également au monde rural. Alors après, sur la question des services publics, l'État n'est pas absolument responsable de tout. Quand on ferme un certain nombre de services au public, qui sont parfois des services, j'allais dire, privés, l'État n'a pas de capacité à intervenir parce qu'il y a un guichet de banque qui ferme, ou etc. Il y a un certain nombre aujourd'hui de problèmes qui subsistent, malgré donc une politique qui a mobilisé des moyens extrêmement importants, hein, on pourrait donner quelques chiffres, mais c'est peut-être aussi finalement... là-dessus qu'il faut aujourd'hui travailler pour les années à venir. Donc tout n'est pas réglé, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites et qui profitent aujourd'hui. Et les élus locaux du monde rural qui ont quand même des projets financés aujourd'hui correctement peuvent en témoigner.
Monsieur Le Prost, une réaction ?
Je l'ai dit, hein, on y reviendra dans le débat. Bien sûr, c'est vrai dans tous les quinquennats, il y a des politiques, il y a des projets qui sont faits. Mais globalement, quand on discute, y compris avec les habitants et bien sûr avec des élus, il y a un sentiment parfois d'abandon chez un certain nombre d'entre eux. Je vous dis, la crise des gilets jaunes, elle est toujours présente. Parce que nombre de problèmes n'ont pas été solutionnés. Alors après, tu dis, Dominique, l'État ne peut pas tout et tu fais référence aux banques. Moi, j'ai pas fait référence aux banques hein, quand j'ai fait la liste et que je pourrais rallonger. Quand j'ai parlé d'école, quand j'ai parlé d'hôpitaux, quand j'ai parlé de perception, quand j'ai parlé de la Poste, nous sommes, c'est des outils de l'État régalien. Et aujourd'hui, quand même, on constate que nombre d'entre eux ont disparu ou ont été amoindris. J'écoutais encore avant de venir que les urgences au Bailleul allaient encore fermer d'ici la fin février au mois de mars. C'est dramatique.
Oui, hein. Mais là, il faut quand même être objectif. C'est-à-dire que lorsque, sur le volet de la présence médicale, de l'accès aux soins, il y a un débat qui transcende les formations politiques. Hein. C'est de savoir finalement aujourd'hui, comment on peut répondre aux besoins d'un accès à la santé, aux soins égalitaires sur les territoires, tant dans les quartiers de la ville que dans le monde rural. Alors, il y a des propositions hein, qui vont jusqu'à...
Lesquelles justement, parce que moi j'aimerais bien aussi entendre quelques propositions sur la ruralité. Vous avez parlé des efforts qui ont été faits, mais concrètement, quelles mesures vous pourriez lister, une ou deux, hein, pas 50 000 ?
Ah bah, y a des...
Sur l'accès au médical, par exemple,
il y a des investissements extrêmement importants qui sont soutenus par l'État aujourd'hui, qu'on voit apparaître sous forme de dotations, DETR, DSI, enfin, etc. Je parle un peu technique parce que ce sont des fonds qui sont entre les mains du préfet en faveur de maisons pluridisciplinaires de santé, par exemple. C'est pas neutre parce que ça permet quand même à un certain nombre de professionnels de santé, pas simplement des médecins généralistes, hein, mais également des dentistes, des infirmières, etc., de travailler donc ensemble, de ne plus être isolé. Vous avez aussi un salariat qui a été adopté par un certain nombre de communes et qui permettent aussi donc localement de répondre donc à cette... Mais ça ne règle pas tous les problèmes, ça, là-dessus, je suis bien d'accord. Parce qu'il y a des professions libérales qui ont aussi une liberté d'installation aujourd'hui.
C'est peut-être bien ça le problème.
Et là, c'est le débat.
Monsieur Le Prost, une réaction très... Enfin, deux minutes hein, pour terminer ce premier sujet.
Sur ces questions, notamment de... Ça ramène au budget des communes. Oui, effectivement, il y a eu des lignes de financement d'investissement, où aussi bien le milieu rural que le milieu urbain, ville populaire ont bénéficié, et on peut que s'en féliciter. Souvent, c'est lié, y compris des mobilisations qu'il y a pu avoir, donc je pense notamment à l'Association des maires de France, qui a quand même beaucoup interpellé le gouvernement. Mais on peut constater également que la dotation globale de fonctionnement, c'est en gros, c'est le financement de l'État, pour les auditeurs et les auditrices.
Pour les communes.
Pour les communes. 50% ont vu leur DGF maintenu ou baissé, alors que le pouvoir d'achat, l'inflation est réelle, et notamment que les communes ont eu des dépenses supplémentaires importantes avec la Covid. Aujourd'hui, il y a un différentiel. Et quand les communes sont en difficulté sur leur budget de fonctionnement, ça les met aussi en difficulté sur leur capacité d'investir après. Donc, j'ai utilisé le mot rendez-vous manqué, je sais pas s'il est exact ou pas exact, mais objectivement, les moyens donnés aux communes pour relever le défi des besoins des habitants, ils sont nombreux, on peut le comprendre, il manque des moyens. Et puis, dernier point, pour pas être non plus être trop technique, on a eu une inflation ces deux dernières années d'appel à projet. Alors, l'appel à projet, c'est quoi pour les auditeurs et les auditrices? C'est, il y a une opération, faut faire un dossier, vous êtes retenu, vous êtes content, il y a des financements, vous n'êtes pas retenu, vous savez pas pourquoi, il n'y a pas de financement. Mais surtout le problème de l'appel à projet, ça demande une ingénierie que n'ont souvent pas d'ailleurs les petites communes rurales, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, ou y compris les villes populaires telles que la ville où je suis maire, c'est la course à l'échalote.
C'est la chasse au
fond. Et donc
quoi.
Ça veut dire que c'est pas l'efficacité. Je pense qu'il faut, il y a besoin, pour éviter d'utiliser le mot il faut yaka, besoin dans le prochain quinquennat, d'avoir une loi de finances spéciale aux collectivités qui permettent d'y voir clair et qu'on ait les éléments, les moyens pour pouvoir construire les politiques publiques en lien avec les habitants.
Une dernière réponse très courte sur le premier sujet, l'interpellation
sur la question
de Monsieur
dotations,
Proust,
des dotations aux collectivités. Gilles connaît parfaitement le sujet puisqu'il siège au sein de l'Association des maires de France. Et je rappelle que sur ce domaine, pour tout ce qui touche en général aux collectivités, le Sénat est un interlocuteur incontournable du gouvernement dès lors qu'il y a nécessité de faire évoluer le contexte législatif et donc de modifier les lois qui répartissent les dotations de l'État, parce que l'État, le gouvernement n'a pas réduit ses dotations aux collectivités.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, l'État a budget constant. Il n'y a pas eu de baisse de budget, vous me l'assurez.
Les gouvernements Macron ont maintenu au centime près les dotations de l'État. Et dans le cadre des plans de relance, etc., ont mis sur la table des moyens donc pour l'investissement extrêmement importants. Donc pourquoi ça bloque? Ben, tout simplement parce que l'État dit, enfin le gouvernement dit aux élus locaux, et c'est bien là, c'est ça qu'il faut expliquer à vos auditeurs, mettez-vous déjà d'accord entre vous, c'est-à-dire au sein de l'Association des maires de France, en lien avec l'Association des maires ruraux de France, pour que l'enveloppe que je vous donne, le gouvernement s'adressant aux élus, soit répartie autrement. Et quand on arrive au comité des finances locales, Gilles, je vais pas t'expliquer comment ça se passe, mais là, évidemment, tous les élus qui sont grassement dotés en dotation disent absolument, on touche à rien parce que c'est absolument impossible.
Il n'y a pas de système de péréquation, c'est ça.
S'il y en a un, mais il est totalement insuffisant. Et aujourd'hui, les élus qui sont les grands bénéficiaires du mode de fonctionnement actuel s'arc-boutent pour bloquer. Mais je parle bien des élus locaux. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, c'est compliqué pour le gouvernement de faire évoluer des modalités de répartition quand les associations d'élus elles-mêmes bloquent finalement. Et donc, je suis absolument d'accord pour faire évoluer les choses. Ma commune elle-même est une grande perdante par rapport à tout cela.
Quand même,
une dernière réaction, Monsieur Le Proust, très rapide.
Permettra Dominique de ne pas partager ton appréciation, parce que même à budget constant, dotation constante de l'État en masse, si nous mettons l'inflation plus ces deux dernières années, les conséquences de la Covid dans les budgets communaux, il manque de l'argent et c'est pas Le Proust qui le dit. C'est d'ailleurs l'association où nous sommes tous les deux, nos deux communes sont adhérentes, l'Association des maires de France, et notamment avec quand même une interpellation forte de celle-ci par rapport au gouvernement sur les moyens pérennes pour les communes.
Le rapport de la Cour des comptes va dans ton sens, à ceci près qu'il distingue à l'intérieur des collectivités des communes qui n'ont absolument pas souffert de la Covid et même qui ont dégagé des excédents de fonctionnement encore plus importants, et d'autres qui au contraire ont été extrêmement pénalisées. Il faut regarder dans le détail. Et le rapport de la Cour des comptes précise bien tout cela. Donc, Gilles, je te renvoie à ce rapport.
On va inviter les auditrices et les auditeurs à aller consulter le rapport de la Cour des comptes sur les finances locales. Je pense qu'ils vont vite lâcher l'affaire. Merci, messieurs. On va passer au deuxième sujet, même si on l'a un petit peu entamé, qu'il y a des regards croisés sur ces sujets. C'était un peu l'objet aussi du débat. Donc, sur le second sujet, on va aborder les quartiers populaires. Et là, pour le coup, je reprends la formulation qui était à l'origine de l'émission. Les habitants des quartiers populaires, Monsieur Le Proust, les grands oubliés du quinquennat?
Grande question. Hein. Alors déjà, le quinquennat du président Macron a mal débuté, puisque il faut avoir en tête que dès l'été, après son élection, dans une loi de finances rectificative, il y avait eu la suppression des emplois aidés, très utile notamment dans les villes populaires et notamment pour les associations, et également raboter sur le budget politique de la ville. Ce qui avait d'ailleurs débouché sur l'appel de Grigny, où il y avait eu des dizaines et dizaines de maires et d'élus de villes populaires, quelles que soient les sensibilités d'ailleurs, et des associations. Suite à cela d'ailleurs, le président de la République avait reçu une dizaine de maires à l'Élysée, dont je faisais partie pour un repas de travail, et avait donc missionné Jean-Louis Borloo pour faire son fameux rapport. D'ailleurs, les élus, les différents ministères, hein, je me rappelle à l'époque, c'était Julien de Normandie, le ministre de la politique de la ville. Joli rapport avec beaucoup de propositions. Et avec une remise au mois de mai, j'ai plus la date exacte,
officielle,
à laquelle j'assistais également avec plusieurs centaines d'élus, de responsables associatifs. et la douche froide, c'est-à-dire pour se voir entendre, c'est pas deux mâles blancs qui vont décider de la politique dans les quartiers populaires, vous comprenez bien qu'on l'avait un peu à travers la gorge. On n'a pas baissé les bras, on a continué à travailler, on a obtenu, y compris de Julien de Normandie, après le premier confinement, des mesures précises et concrètes, je pense aux colos apprenantes, je pense aux quartiers d'été, des financements pour permettre... Les gens ne partent pas en vacances. Déjà, dans nos quartiers, ils partent peu en vacances, mais c'était encore accentué. Donc ça, nous avions obtenu des arbitrages positifs. Ensuite, nous avons obtenu un élément qui était important dans le rapport Borloo, les cités éducatives, pour renforcer, parce qu'on sait bien que l'éducation, c'est un élément déterminant et qu'il y a beaucoup de d'inégalités de ce point de vue-là, mais qu'on peut retrouver également, parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait des cités éducatives dans certains secteurs ruraux,
ouais,
parce
que je pense que
de ce point de vue-là, avec... mais moi, enfin, Dominique me connaît bien, et y compris ici aussi, je l'ai dit, je le répète, je pense qu'il faut plutôt réfléchir la complémentarité entre les territoires, tu l'as dit Dominique, les uns ont besoin des autres, qu'en opposition. Donc on a obtenu les cités éducatives, et puis ça n'allait pas bien vite, notamment les quartiers populaires. Par rapport à ce que tu disais, Dominique, la crise Covid était compliquée à gérer. C'était partout compliqué, mais particulièrement parce que c'est plus compliqué de faire du confinement quand tu habites dans un bâtiment de 4, 5, 6 étages que quand tu as une maison avec un petit jardin. Et c'est pas opposer non plus les choses, mais c'est un constat réel. Et donc voilà. Et donc, ça fait qu'au mois de novembre 2020, avec 200 maires, nous avons lancé un appel au président de la République en disant le compte n'y est pas, on va jamais s'en sortir. Et ce qui a découlé sur un conseil interministériel des villes en janvier 2021, et où il y a eu une série, on a eu 1 milliard de plus pour l'ANRU, on a eu un certain nombre de dispositifs, des éducateurs, des médiateurs. Mais oui, on a obtenu. Mais parce qu'il y a eu une mobilisation des élus, d'ailleurs. Et là encore, dans la diversité de leur sensibilité. Vous voyez, c'est pas
en
droite, gauche, machin, truc bidule. C'est une mobilisation de celles et ceux qui avaient des quartiers prioritaires, ça faisait pas le compte, qui sont mobilisés ensemble. Voilà donc, voilà le bilan. Alors le bilan, est-ce qu'il est positif, globalement positif, globalement négatif? Il y a eu des avancées qui ont été beaucoup gagnées par la mobilisation des acteurs du terrain, les élus et les associations et les habitants eux-mêmes.
Monsieur Amir, une réaction, j'imagine, au propos de Monsieur Le Proust.
Oui, enfin, je me félicite finalement que Gilles présente un certain nombre de dispositions qui ont été mises en œuvre à partir de 2019 sur la base du rapport Borloo. Et c'est quand même bien dans la mandature actuelle. Alors après, les modalités, les débats, les discussions, je veux dire, ça fait partie aussi du jeu politique. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir concrètement quel est le diagnostic qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à la politique qui est menée pour politique de la ville, pour les quartiers en difficulté. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Parce que ce n'est jamais abouti.
Donc, je peux vous poser une question, monsieur Amir? Oui. Moi, je viens de la ruralité, je suis vendéen. On sait un petit peu ce que c'est. Et souvent, j'entends le propos, c'est des gens aussi qui y pensent, et souvent ils disent « Ah, les quartiers populaires, ils sont vachement plus dotés, ils ont plus d'argent que nous dans la ruralité. » Est-ce que c'est vrai? Comment vous le ressentez, vous, chez vos administrés? Est-ce qu'ils tiennent ces propos, ou c'est pas le cas, et du coup vous essayez de dire « Non, c'est pas vrai ».
Objectivement, je ne veux pas vous dire que je l'entends pas, parce que effectivement, ça fait. Mais bon, je pense qu'il faut pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'en fait, on a des quartiers qui ont été sélectionnés sur la base de difficultés qui sont avérées, incontestables, chômage, problèmes éducatifs, etc. Et donc, la question, c'est de savoir comment, finalement, par des politiques qui permettent donc de réduire les inégalités, qu'on soit au monde rural, mais là, on parle plutôt
exactement
du monde urbain.
Les constats que fait sur la pauvreté, parfois, qui est présente dans les quartiers populaires, vous la retrouvez aussi dans la ruralité, ces difficultés d'accès, on en parlait en médecin, mais aussi culture, l'emploi, enfin, c'est aussi une difficulté que vous avez en mer rurale, dans vos administrés, il y en a beaucoup.
Oui, mais ça ne se perçoit pas de la même manière, c'est-à-dire que dans le monde urbain, on peut identifier des quartiers qui ensuite vont relever d'une politique de la ville avec des financements importants qui sont fléchés dessus. Dans le monde rural, peuvent cohabiter, c'est tout du moins moi ce que je constate, dès lors qu'on n'est pas en première couronne, où là on a plutôt des catégories privilégiés, on va dire, socialement. Mais dès qu'on s'éloigne, on voit cohabiter des gens qui ont des revenus corrects, etc., qui n'ont pas de difficultés particulières, et des gens qui sont issus de qui relèvent des classes populaires, ouvrières, employées, etc. Et dès qu'il y a un problème d'emploi, etc., on sent tout de suite qu'il y a des difficultés. Donc, vous voyez, c'est pratiquement un traitement à l'individu qu'il faut arriver à faire, et c'est toute la difficulté du monde rural, parce que la pauvreté qui peut parfois y avoir, elle se voit moins visible, elle est moins facile à identifier. Il faut vraiment avoir une lecture très très,
très fine de vos administrés. Monsieur Leproust, une réaction très courte, il nous reste deux minutes sur ce sujet-là. Ouais, je sais, les cartons pour en faire toute une émission.
Ce qui caractérise quand même les quartiers populaires, quartiers prioritaires, puisque tel est le mot exact, hein, c'est la concentration. À Lonne, par exemple, c'est 20% de chômage.
Ah oui,
20%. Dans le quartier de Chaoué, Perrières, c'est chez les jeunes 35%, chez les 16-25 ans. C'est 30% de personnes qui vivent en dessous le seuil de pauvreté. C'est un nombre très important de familles monoparentales. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de politiques spécifiques. Il y en a besoin de partout, mais particulièrement spécifiques dans nos quartiers. Et puis, ce qu'on peut constater, je reviens à la question que vous posiez, le bilan. Ce qu'on peut constater quand même, et avec la Covid, et c'est aussi, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est un constat relevé par beaucoup, c'est que les inégalités ont continué à s'aggraver dans nos territoires. C'est-à-dire que, par exemple, les associations de solidarité, Secours Populaire, Secours Catholique et les Restos du Cœur qui ont une grosse activité de ville comme Alonne, ont vu beaucoup plus de bénéficiaires depuis deux ans. Et ça, c'est un signal. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire que la situation,
Les gens
nombre d'habitants, on se sont dégradés. Et c'est un vrai enjeu, certainement qu'on y reviendra dans cette réunion, mais là aussi, qui est posé aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, c'est la question, comment faire République ensemble, quoi. Parce que lorsque des gens considèrent qu'ils n'appartiennent plus à la République parce qu'ils se sentent plus respectés, ils ont un sentiment d'abandon, ça peut conduire à des démarches dangereuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et que c'est un enjeu à la fois au niveau national, mais y compris pour nos collectivités, comment on travaille ensemble pour redonner de la confiance et qu'on fasse République ensemble. Et ça, c'est sur cette question-là, par exemple, que l'Association des maires de villes et banlieues va interpeller l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle.
Merci, monsieur. Oui, dernière, très très courte, monsieur Amir. J'ai un morceau de musique à faire.
Je suis d'accord. Ceci étant, il ne faut pas quand même omettre qu'il y a des contrats de ville qui sont signés, donc, au Mans, et Alonne en bénéficie très largement, mais aussi un peu Coulaine, plus un certain nombre de quartiers au Mans, avec des programmes extrêmement lourds. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont engagés, donc ne serait-ce que Gilles, tu peux confirmer.
Il n'y a pas de quartier prioritaire de la ruralité
pour la ville, par le programme national de rénovation urbaine, avec en termes d'habitat social, des rénovations, etc. Aussi en termes d'équipements sportifs, culturels, etc. Il y a des engagements extrêmement forts de l'État au bénéfice des quartiers, et je m'en félicite. Hein. Je me félicite qu'Alonne puisse bénéficier de cette.
Vous souhaiteriez éventuellement interpellé, pourquoi ne pas créer des quartiers prioritaires de la ruralité ? Ça pourrait être une proposition peut-être que pourrait faire le candidat Macron. Sachant qu'il n'est pas encore. On va s'écouter un petit extrait de musique après ce débat très riche, merci messieurs, pour rendre hommage aux habitants de la ruralité. Un petit morceau de Trio, hymne de nos campagnes. À tout de suite.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème, en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Après cet excellent morceau de trio, l'hymne de nos campagnes, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, les propositions. J'ai décidé de poser une petite question qui est très taboue en France, on va pas se leurrer. Faut-il, messieurs, imposer la discrimination positive en France, que ce soit parfois au profit des habitants de la ruralité ou parfois au profit des habitants des quartiers populaires. Messieurs, une réaction, peut-être monsieur Le Proust ou monsieur Amer, comme vous voulez.
Oh, je vais bien commencer. Moi, je suis tout à fait favorable à la discrimination positive en faveur des territoires qui sont les des territoires qui ont peu de ressources, parce que eux ont besoin par un système de redistribution, de solidarité nationale, ont besoin donc. Tu parlais, Gilles, tout à l'heure de la DGF, de cette dotation générale de fonctionnement, mais d'un certain nombre d'autres enveloppes. Et il faut impérativement pouvoir corriger les inégalités. De richesses qui sont liées fondamentalement aux inégalités de répartition de l'activité économique. Et depuis 2010, le mécanisme de localisation des entreprises a concentré autour des grandes métropoles gagnantes de la République, ces entreprises qui ensuite versent donc une fiscalité professionnelle aux grosses intercommunalités, métropoles, communautés urbaines, voire communautés de l'agglomération. Et dans le monde rural, où on a perdu énormément d'emplois, énormément de petites entreprises industrielles, etc., il n'y a plus cette ressource. Et donc, c'est par la redistribution et la solidarité qu'on va arriver. Et donc, si derrière le terme de discrimination positive en faveur des territoires, sous l'angle notamment des dotations, il y a cette question-là, j'y suis extrêmement favorable.
Ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais, mais elle est excellente. Monsieur Le Proust.
Oui, effectivement, c'est un outil parmi d'autres pour lutter contre toutes les inégalités sociales et les injustices, tout simplement. Dans le même temps, ça peut avoir d'efficacité, c'est comme la politique de la ville, mais là, on est dans la partie proposition, donc tout ça peut se concevoir que s'il y a un niveau de financement du droit commun. Alors, c'est quoi le droit commun? C'est les politiques générales, notamment de l'État, particulièrement fléchées dans les territoires en déficit. Parce que c'est ça qu'il s'agit en fin de compte. Et puis après, la discrimination positive, c'est également lié, y compris aux personnes, où effectivement il y a beaucoup de discrimination. C'est clair que quand tu envoies un CV que t'habites à Lod, et pour un peu que t'as un nom qui soit pas un nom d'origine sartoise, l'expérience monte quand même. C'est t'as moins de chances que ton CV soit retenu, c'est une réalité. Donc il y a besoin effectivement d'être beaucoup plus volontariste. Il n'y a pas de solution miracle, hein, mais plus volontariste pour permettre justement que chacun et chacune se sente et soit traité à égalité sur toutes les questions que ce soit, l'accès au travail, l'accès à l'école, l'accès à la culture, l'accès au sport, Et donc ça, c'est des enjeux effectivement à relever et qui doit être au cœur des présidentielles.
Donc pour ou contre la discrimination positive au niveau des individus, je vais revenir sur votre proposition de discrimination positive sur les territoires. Monsieur Le Prous, vous êtes pour ou contre la discrimination positive?
Oui, bien sûr qu'il y a des
secteurs,
il y a besoin. Oui,
d'accord.
Bien sûr, mais
okay,
on a
c'est
besoin,
très intéressant parce que ce genre de sujet était difficile à aborder. Monsieur Hamer, moi j'ai beaucoup l'expression la discrimination positive sur les territoires. Vous avez parlé tout à l'heure, on a vite fait évoquer le sujet sur le principe de la péréquation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et jusqu'où il faudra aller selon vous en tant que maire de ruralité? Ça serait quoi pour vous une bonne péréquation en fait?
Alors déjà, il y a deux types de péréquation. Il y a la péréquation verticale et la péréquation horizontale. Je vois Gilles qui est en train de sourire, évidemment, puisque au sein de l'Association des maires de France, forcément, ça fait débat. La péréquation verticale, c'est l'État qui donne plus aux territoires en difficulté, qu'ils soient ruraux ou urbains, et moins aux autres. Et puis la péréquation horizontale, ça consiste à prendre ce que j'évoquais tout à l'heure, aux collectivités territoriales, mais on va dire essentiellement aux grands territoires urbains qui vont bien. Tous les territoires urbains ne sont pas non plus favorisés, mais enfin, on a vu quand même ces derniers temps des grandes métropoles, etc., amasser donc des richesses considérables. Et là, pour redistribuer en faveur donc des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, qui en ont besoin. Et c'est toute la difficulté, parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui, et il faut pas, on n'est pas dans un monde de bisounours hein, au sein des élus. C'est-à-dire que les élus qui aujourd'hui sont dans les territoires relativement favorisés disent c'est à l'État de se débrouiller pour donner plus à ceux qui ont moins. Mais nous, on a absolument besoin de tout ce qu'on a. Et quand on y regarde d'un peu plus près, quand on regarde les excédents de fonctionnement des dizaines et des centaines de millions d'euros, surtout quand on sait que les communes centres de ces grandes métropoles se sont déchargées sur leur intercommunalité d'un certain nombre de charges qu'elles avaient précédemment et qui ensuite, alors que nous dans le monde rural, on peut pas se décharger sur la communauté de communes par exemple, parce que la communauté de communes elle est à peu près aussi pauvre ou tout du moins pas plus riche que beaucoup de communes rurales. Et donc on garde nos charges. Et si éventuellement on en transfère une, faut donner de l'argent avec. Donc ça nous intéresse pas beaucoup. Ce sont des mécanismes qu'il faut quand même expliquer à la population. C'est ça qui fait aujourd'hui les grandes inégalités. Et moi, je reste sur la question de la répartition de la richesse produite par les activités économiques et l'État, évidemment. Et finalement, c'est le dernier sujet. C'est quelle proposition pour.
On y viendra tout à l'heure.
Et voilà. Et finalement, c'est vers ça qu'on va.
Hein. Monsieur Le Prous, peut-être une réaction ou sur le constat, vous êtes d'accord avec Monsieur Hamer, peut-être ou
bah, effectivement, il y a donc la solidarité nationale et puis la solidarité entre les territoires. Donc la solidarité nationale, elle peut s'exprimer à travers la dotation globale de fonctionnement, mais également à travers les politiques plus sectorielles. C'est vrai de la politique de la ville, c'est vrai la dotation de solidarité urbaine, il y a aussi la dotation de solidarité rurale, qui sont plus fléchés vers des territoires qui sont en plus grande difficulté par rapport aux moyens financiers qu'ils ont, y compris par rapport à la richesse, plutôt la pauvreté de leurs habitants. Et puis il y a la solidarité horizontale entre collectivités. Je pense notamment au fonds de péréquation intercommunale, le fameux FPIC, mais qui aussi permet d'apporter plus de moyens à des territoires qu'on a plus besoin. Et par exemple, moi, je parlais d'une chose que je connais mieux, puisque je suis aussi également vice-président de Le Mans Métropole. Moi, je considère qu'à Le Mans Métropole, on a une politique de solidarité qui est respectueuse de la diversité des territoires et qui est attentive à apporter plus là où il y a des besoins importants sociaux, notamment, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et que chacun contribue selon ses possibilités à cette mutualisation et à cette solidarité. Donc, faut les deux niveaux. Mais dans le même temps, peut-être les auditeurs et les auditrices vont dire que le maire d'Allonne se répète, mais c'est pas grave. Tout ça peut se concevoir qu'à partir du moment où les financements de l'État sont à un niveau suffisant pour pouvoir faire face aux attentes et aux besoins des habitants, parce qu'on l'a pas évoqué. Ça vaudrait une réunion à une émission à elle toute seule. C'est la question, y compris la disparition. Tu en as fait référence, Dominique. La disparition des impôts économiques. Et en plus, sans oublier la disparition de la taxe d'habitation.
Oui, justement.
Parce que les compensations, on connaît ça par cœur. Et là, Dominique, on peut juger sur pièce. C'est que la compensation est toujours à un moment T. Mais les choses évoluent. et que n'est pas forcément pris en compte ces évolutions. Et donc, de fait, il y a une perte de pouvoir d'achat pour les communes. Comme ça, les auditeurs qui voient bien leur pouvoir d'achat qui est en difficulté, pour une commune, c'est pareil. Et là, c'est très, très, très inquiétant pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a presque plus de marge, de progression, de liberté de lever l'impôt. Et donc, de permettre d'avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir répondre, y compris aux projets que les équipes municipales portent et qui ont été validées au moment des élections municipales.
Ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire, monsieur Lepreau, c'est peut-être monsieur Amiard confirmera ou non, les collectivités territoriales ont perdu une partie de leur autonomie qui est quand même reconnue dans le Code général des collectivités territoriales, qui sert un peu de réglementation, qui gère tout ça. Et vous confirmez qu'il y a eu une perte d'autonomie au niveau des collectivités territoriales?
Ça dépend de quelle collectivité territoriale
au niveau des municipalités.
Si on parle des communes, la perte de la taxe d'habitation a été compensée par de la taxe foncière.
Vous pouvez nous expliquer?
Eh ben, c'est simplement c'est une évolution législative. Donc, c'est une part de la taxe foncière qui était préalablement perçue par les départements, qui a été récupérée par les communes qui peuvent moduler leur taxe foncière aujourd'hui. Par contre, quand une taxe est perdue, et là, je crois que Gilles, c'est le cas des départements, est remplacée par une dotation de l'État, là, c'est plus du tout la même chose, parce que dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale, chaque année au mois de novembre, qui fixe les grandes orientations budgétaires et l'ensemble des dotations en faveur des collectivités, et les députés peuvent tout à fait réduire cette enveloppe-là et donc dans ce cas-là affecter la dotation. Oui. Donc vous voyez, pour les départements, effectivement, il y a cette question de la perte d'autonomie. Pour les communes, c'est moins vrai. Qu'il va falloir quand même être extrêmement vigilant sur l'évolution qui va être donnée dans les années à venir, parce qu'il y a quand même quelques sujets qui peuvent pas être occultés, je suis bien d'accord avec toi.
En une minute, monsieur Lepreau, vous êtes d'accord avec le constat de monsieur Amiard sur justement finalement les communes n'ont pas tellement perdu d'autonomie financière, en tout cas?
C'est pas tout à fait ce qu'a dit Dominique.
J'ai mal compris, excusez-moi.
Il y a eu des transferts, etc. Mais quand même, globalement, toutes les collectivités et les communes en particulier ont perdu l'autonomie financière. C'est incontestable. Par exemple, les appels à projets, c'est... Tu fais un appel, t'as un financement de l'État, mais c'est figé à un moment donné. Ce qui était important avec la taxe d'habitation et le foncier, alors même s'il fallait maîtriser, mais t'avais une recette dynamique. Aujourd'hui, pour une part, on l'a perdue.
D'accord. Je m'excuse vraiment, monsieur Amiard, d'avoir mal interprété vos propos et je remercie monsieur Lepreau de m'avoir repris. On peut faire aussi des bêtises quand on anime. On va passer à notre dernier sujet. Petit blanc, ça arrive. Qui sera notre dernier sujet pour le coup? Quelle proposition en 2022 pour les quartiers populaires et la ruralité? Première question que je pose à chaque invité, soutenez-vous un candidat en particulier déclaré ou non déclaré, monsieur Le Proust?
C'est pas un secret. Ouais. Hein, j'ai donc donné mon parrainage à Fabien Roussel.
D'accord.
Candidat du Parti communiste français.
Monsieur Amira,
pour moi, c'est pas un secret non plus. J'ai donné mon parrainage à Emmanuel Macron.
D'accord. Au moins, les choses seront claires pour les auditrices et les auditeurs. Proposition en 2022 pour la ruralité. À tout seigneur, tout honneur, monsieur Amira.
Écoutez, moi, je souhaite que pour 2022, mais pour aussi les années à venir, il y ait une montée en puissance des mécanismes de péréquation. Si ça ne peut pas être avec un accord avec les associations, je parle pas de l'association des maires ruraux, parce que là, eux, je sais qu'ils sont d'accord avec moi, mais au sein de l'association des maires de France, où là, on a l'ensemble des élus, toutes catégories de territoires confondus, là, on sait que c'est beaucoup plus compliqué, et je crois qu'il va y avoir effectivement urgence à travailler cette question-là, parce que aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier pleinement des plans de relance, des opportunités, d'appels à projets, d'aller vers la transition énergétique, etc. Il faut que le monde rural, les communes qui ont peu de ressources, puissent dégager de l'autofinancement de façon à pouvoir ensuite le basculer vers de l'investissement Donc, il faut de l'excédent de fonctionnement pour faire de l'autofinancement de façon à pouvoir saisir les opportunités qui existent. Donc ça, c'est une piste de travail. Et donc, c'est pour ça que effectivement, dans le cadre du débat qui va y avoir là, qui va s'engager ou qui est déjà engagé, c'est un des points, moi, que je voudrais véritablement, parce que ça va aider véritablement à réduire ces inégalités territoriales, même si beaucoup de choses ont été faites, il y a encore un chemin à parcourir. Il faut dire les choses clairement.
Donc, comme le programme du candidat non déclaré, Monsieur Macron, n'est pas encore connu, c'est une interpellation que vous faites au niveau de Monsieur Macron.
Oui, mais
j'espère qu'il nous écoute.
Elle n'est pas surprenante de ma part, puisque je suis intervenu au Congrès des maires de France. D'accord. Dans ce sens-là. J'interviens au Congrès des maires de la Sarthe régulièrement chaque année sur ces questions-là. Donc voilà, au moins c'est je suis cohérent avec moi-même.
Cheval de bataille. Monsieur Roussel, pas encore en tout cas, hein, peut-être un jour, Monsieur Le Proust. Hein,
je vais rester Monsieur Le Proust.
Vous devez pas être un impétrant. Dès les propositions du candidat Roussel et du Parti communiste français pour les quartiers et la ruralité éventuellement.
Oui, pour les deux.
Pour les deux, oui, pas éventuellement d'ailleurs.
Enfin, peut-être pour informer vos auditeurs et auditrices, l'Association des maires de France va auditionner l'ensemble des candidats qui auront leur parrainage le 15 mars à Montrouge pour justement leur permettre de venir se présenter devant un millier d'élus pour porter leurs propositions. Une des propositions qui est portée par Fabien Roussel, c'est d'une que les communes et les collectivités territoriales en général ne sont pas des vaches à lait, n'ont pas des trésors cachés pour payer la dette, parce que c'est un débat qu'on entend et on va encore beaucoup entendre. On va les prendre, parce que c'est ce qu'on a connu un peu durant les deux dernières décennies. Vous voyez d'ailleurs que je l'ai dit au début, hein, moi j'ai pas limité ma critique, y compris des questions par rapport au traitement par l'État des collectivités territoriales, uniquement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il s'est mis dans les chaussons de ses prédécesseurs et les rapports ont été quand même pour le moins complexes entre les communes et lui. Alors voilà, on propose une grande réforme de la fiscalité locale dans ce pays, parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit Dominique, on va appeler un chat un chat, parfois il y a des égoïsmes territoriaux, c'est une réalité. Donc il faut mettre les choses sur la table, il faut que chacun y contribue à la hauteur de ses possibilités, mais surtout il faut trouver des finances, des recettes nouvelles. Et notamment, je pense qu'il faut réfléchir à ce que on remette dans le budget des collectivités des recettes liées à l'activité économique. Une entreprise qui vient s'installer dans un territoire, elle le fait parce que le territoire, il a des écoles, il y a de la santé, il y a de l'activité sportive et culturelle pour ses salariés. Et que donc c'est normal, contrairement à ce qui s'est passé depuis deux décennies, que le monde économique participe plus pleinement au budget des collectivités. Alors, une piste concrète justement, pour trouver des réponses.
Pour nos auditrices et nos auditeurs, quel type d'impôt vous donneriez un exemple ou deux, hein.
Il existait la taxe professionnelle, qui a été supprimé par un autre gouvernement, une autre majorité. Je ne dis pas pour revenir complètement sur la forme de la taxe professionnelle, mais il y a besoin d'avoir un impôt de ce type qui permettait, y compris quand même, de lever de l'impôt qui a abondé d'une manière intéressante les budgets des collectivités. Alors, différentes suivant le territoire où tu es. Moi, j'étais maire d'une ville. Enfin, je suis maire d'une ville. Une ville qui avait pas d'entreprise, donc qui avait peu de taxes. Alors, vous voyez, je prêchais pas forcément pour ma paroisse, d'ailleurs, hein. Mais voilà. Donc, je crois que, oui, les impôts économiques, ça doivent être revus, y compris fléchés pour une part en direction des territoires et des communes en particulier.
Donc, vous êtes d'accord? Plus de solidarité entre les territoires et on refait une grande réforme fiscale une grande réforme de la fiscalité des collectivités territoriales. Vous êtes d'accord sur ça, en fait?
Oui, la question de la répartition des ressources, effectivement, parce que on voit qu'il y a des villes pauvres avec des quartiers en difficulté, etc. On voit qu'il y a des territoires ruraux pauvres, mais c'est pas tous les territoires ruraux non plus. Donc il faut regarder ça avec un œil d'expert et puis aller vers encore plus de justice, sans oublier tout ce qui est déjà fait aujourd'hui, parce qu'il s'agit pas non plus de faire table rase et de considérer qu'il y a rien de fait. On a évoqué tous ces engagements, y compris pour les quartiers. Hein, j'ai pas plus le temps de détailler, mais pour le monde rural aussi. Il faut simplement que dans le monde rural, parce que j'en parle un peu plus fortement, puisque évidemment moi je suis un élu du monde rural, mais il faut que l'ensemble du monde rural puisse aujourd'hui en bénéficier, c'est-à-dire que les élus des petites communes qui sont au plus près de leurs concitoyens pour entretenir les routes, pour remplacer la chaudière au fioul qui est à l'école, pour voilà améliorer des choses, j'allais dire qui affectent le quotidien de leurs concitoyens, que ces élus-là sentent aussi que voilà ils vont pouvoir à leur tour aussi bénéficier d'un certain nombre d'opportunités, qui vont avoir quelques marges financières. Donc voilà, c'est le sens moi de l'appel que je lance quoi. Et donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on travaille. Mais là-dessus, on est finalement quelque part assez d'accord. Et ça transcende finalement
les clivages partisans.
Les clivages partisans, parce que on est dans des territoires qui ont besoin de soutien et donc de solidarité. Et c'est tout l'ambition normalement d'une politique qui doit aller vers peut-être finalement au-delà des programmes Action Cœur de Ville qui bénéficient par exemple à la Flèche et à Sablé, au programme Petite Ville de Demain, puisqu'il y a un certain nombre de bourgs, de petites villes sartoises qui bénéficient de ce programme, ben peut-être qu'il faut mettre en place un programme petit village, etc. Et donc peut-être un nouvel échelon finalement de programmation et de financement avec cette réforme de la fiscalité et des dotations de l'État.
On a parlé, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent, mais d'autres propositions sur la ruralité ou les quartiers populaires qui ne sont pas forcément que l'attribution financière aux municipalités. Monsieur Le Proust, peut-être une ou deux mesures comme ça, très rapides.
Quand on arrive à la fin de l'émission, j'ai évoqué tout à l'heure la question qu'il y avait urgence de faire république, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, et notamment où des habitants, parce que c'est quand même le point de départ hein, d'un élu, c'est comment, dans les mesures que nous prenons, elle apporte un mieux aux habitants de nos territoires, quel que soit l'endroit où ils habitent. Moi, je pense qu'il faut réaffirmer la place de la commune dans l'organisation territoriale de ce pays, parce que on a connu la loi NOTRe, où on nous expliquait plus c'est grand, mieux c'est. Je crois que tout le monde en revient. Parce que je pense que la commune, sur chacune de nos mairies, a marqué liberté, égalité, fraternité, c'est des devises de la République. Mais ça doit pas être que des devises, que des mots. Ça doit être véritablement un choix politique de l'État d'accompagner, de respecter, de faire avec ce qui a pas forcément avec les communes, ce qui a quand même pas forcément été le cas durant tout le quinquennat, parce qu'il y a quand même eu des rapports et l'AMF c'est une association qui regroupe toutes les sensibilités, donc c'est pas une sensibilité qui a pris le pas sur l'autre, mais ce fait que les communes se sentent dépossédées d'un certain nombre de prérogatives, où beaucoup de mesures sont tombées sans qu'on demande l'avis des maires et de leur équipe municipale, parce que là aussi nous sommes maires, il y a des équipes municipaux, il y a des conseillers municipaux qui font un travail, remarquable. Donc voilà, c'est aussi une question, remettre la commune au centre de notre construction républicaine.
Et monsieur Amir, un dernier mot très rapide, une minute, sur peut-être une réaction, une autre proposition que vous aimeriez voir lancée par le candidat non déclaré monsieur Macron.
Moi, je souhaite effectivement, comme Gilles, hein, que la commune reste vraiment un élément clé dans l'organisation de nos territoires, de notre République, parce que on l'a vu là, y compris dans le cadre de la crise sanitaire, les gens sont venus, se sont tournés vers les mairies. On voit bien qu'il y a des réponses de proximité qui sont faites avec des associations, avec des élus dans nos conseils municipaux qui sont bénévoles, etc. Donc, il faut absolument préserver cela, et puis il va falloir s'approprier encore un certain nombre d'autres dossiers. Donc moi je pense à la présence médicale dans les territoires, je pense à la mobilité sur laquelle il va falloir continuer à travailler, même s'il y a une loi LOM, il va falloir demain mettre tout ça en œuvre. Donc il y a encore un certain nombre de chantiers, tant dans le monde des quartiers des villes, etc., que dans le monde rural, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne, c'est pour ça aussi que je m'engage, et au bout de 27 ans, je suis encore maire et motivé.
Et on vous en remercie, parce que être élu en ce moment, c'est pas facile. Une très courte réponse, monsieur Le Proust, peut-être, ou on termine
Non, simplement dire que je crois que l'avenir de notre pays, l'avenir de la République passe par les communes et que l'État et la future majorité, futur président de la République, la future majorité qui en suivra devra prendre en compte cet élément et ils peuvent compter sur le maire que je suis pour leur rappeler en permanence avec l'Association des maires de France que ça aille dans le bon sens.
Merci monsieur Leproust, merci monsieur Amiard. On termine par un petit morceau de Kerry James, Lettre à la République. Bonne soirée à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Et je passe la main à la prochaine émission, La Carotte, présentée par Alexandre. Bonne soirée à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci les auditrices, merci les auditeurs, merci à toi LB.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant ces riches en donneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.